You know, it's the boy Dash all the way from Grenada and it's tuned in to C-Cut 90.3 FM.
Bonjour, bienvenue à Point de Vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, le gouvernement fédéral injecte plus de 23 millions de dollars dans les infrastructures et les entreprises technologiques du Grand Edmonton, près de 1000 emplois créés.
On a des plans ambitieux pour Edmonton et pour Alberta. Et maintenant, le focus est pour diversifier notre économie, pour faire sûr que l'économie va continuer à être stable et va continuer à créer des emplois.
La saison de la pêche au crabe des neiges bat son plein au Québec. Les quotas légèrement bonifiés cette année, mais pour combien de temps?
Au début de la saison, c'est sûr que le crabe embarque mieux, puis on fait des meilleures levées. L'année passée ici, la saison était quand même bonne, meilleure que d'habitude. Le crabe est moins concentré, est plus concentré le printemps que, je vous dirais, en juillet.
Le Conseil scolaire acadien provincial à la mine basse, son projet de loi 156, qui promettait d'enfin réformer l'éducation en français en Nouvelle-Écosse, de nouveau au banc des pénalités.
Les francophones, les Acadiens francophones de Nouvelle-Écosse se trouvent en situation minoritaire. C'est toujours une bataille de garder ou sauvegarder notre culture, notre langue. Puis une manière de faire ça, c'est assurer que le système d'éducation en français va être ici dans 25, 50, 100 ans.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Vous savez, Point de vue aime se promener et on ira faire un petit tour aujourd'hui dans l'Ouest, visiter l'Alberta, pour ensuite faire un petit transit au bord de la mer au Québec pour finir dans l'Est du pays, en Nouvelle-Écosse. Mais on lance l'émission à Edmonton où le ministre canadien des Affaires du Nord, Daniel Vandal, et le ministre canadien du Tourisme, Randy Boissonneau, avaient de bonnes nouvelles pour les élus, gens d'affaires et citoyens d'Edmonton et de l'Alberta. Accompagné du maire d'Edmonton, Amarjit Sohi, les deux ministres annoncent l'injection de 23,7 millions de dollars dans des projets d'infrastructures et technologiques en Alberta. Le Fonds canadien de revitalisation communautaire va de son côté investir 6,7 millions de dollars dans la revitalisation de certains espaces publics d'Edmonton. On parle en fait de 27 projets. Au programme, la rénovation de ruelles, la modernisation d'une station de métro, de l'art public autochtone, des allées piétonnes remises au goût du jour et des jardins communautaires. Le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, en parle au micro de Vincent Savard.
C'est plutôt des nouveaux projets d'infrastructure communautaire qui sont positifs pour la communauté, qui ont une bonne accès à la communauté, ou des projets d'infrastructure existants qui ont besoin d'un peu de rafraîchissement ou modernisation pour faire sûr que leur vie continue pour plus longtemps. Plus tard le matin, on a annoncé un investissement de 17 millions de dollars qui vise à aider les entreprises de pointe de la région Edmonton à accéder des ressources, des capitaux et du soutien dont elle a besoin pour prendre une expansion dans le marché. Ils sont tous importants puisque toutes des initiatives qui ont été avancées par la communauté et je sais que le ministre Boissonneau a aussi encouragé beaucoup de projets. Un exemple, c'est une initiative visant à transformer deux ruelles au centre-ville en espace de rassemblement communautaire qui peut accueillir des festivals, des marchés. Un autre projet qui est une modernisation de stations de métro pour donner plus d'accessibilité et d'installation d'œuvres d'art autochtones. Un autre, c'est amélioration de l'accessibilité aux piétons et des transports actifs autour de l'avenue White, grâce à du mobilier urbain.
S'ajoute à ces projets d'infrastructure un financement de 17 millions de dollars, lequel vient appuyer les efforts et projets d'une dizaine d'entreprises du secteur manufacturier, de l'énergie verte et des technologies numériques d'Edmonton, telles que Organic Box, PBG Biopharma, Dry Run et la Northern Institute of Technology, parmi d'autres. Cet appui va leur permettre de créer près de 880 emplois dans le Grand Edmonton. De nouveau, le ministre canadien des Affaires du Nord, Daniel Vandal.
C'est plutôt des emplois d'innovation qui vont aider à diversifier l'économie. Ils vont certainement créer des jobs, ils vont diversifier l'économie. Et puis, c'est plutôt des entreprises d'innovation et de technologie. Et un exemple, c'est Dry Run va recevoir 250 000 $ pour améliorer son logiciel de modélisation financière et lancer de nouvelles activités de vente et de marketing. Ça fait que c'est des entreprises novatrices à forte croissance d'Edmonton pour on va leur donner de l'aide pour prendre de l'expansion et créer des emplois. On a des grands espoirs et des grandes initiatives au niveau national pour se pencher sur l'énergie verte, l'énergie renouvelable. Pour faire ça, on a besoin de la modernisation, on a besoin de l'innovation. Ça fait qu'on aimerait aider des entreprises jeunes pour qui vont faire la recherche sur l'innovation pour donner des solutions plus long terme. On a des plans ambitieux pour Edmonton et pour Alberta. N'oublie pas qu'on a passé 2 ans extrêmement difficiles au Canada. On a perdu beaucoup d'emplois, mais on a regagné des emplois. Et maintenant, le focus est pour diversifier notre économie, pour faire sûr que l'économie va continuer à être stable. Il va continuer à créer des emplois, pas juste maintenant, mais au long terme.
Merci beaucoup, M. Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord.
Mon plaisir.
La saison de la pêche au crabe des neiges bat son plein au Québec. Sur la côte nord, la pêche a été lancée le 25 mars dernier, près de Tadoussac. La majorité des autres zones ont suivi vers le 4 avril. La saison de la pêche au crabe des neiges s'étend sur plusieurs mois. Elle doit prendre fin à la mi-juin environ au Québec. Pêche et Océans Canada en régule les paramètres et décrète, entre autres choses, les quotas auxquels les pêcheurs ont droit chaque année en fonction de leur zone de pêche. Marc Mongé, un résident de Tête-à-la-Baleine, pêche le crabe des neiges sur le Lynn Daniel avec son fils Tommy et son ami Charles Marcoux. Il revient tout juste d'une première zone de pêche. Il a ramené à son bord son premier quota de 12 500 livres de crabe des neiges tiré de la zone 16A au large de l'île d'Anticosti. Il est reparti cette fois vers une autre zone au début du mois de mai et il espère en ramener plus encore. Notre correspondante à Tête-à-la-Baleine, Pénélope Clermont, attendait Marc Mongé au bout du quai avant qu'il ne reprenne la mer. Elle discute avec lui du début de la saison, de la gestion des quotas et du prix du crabe.
Quelle est votre perception des quotas, soit en hausse ou en baisse cette année?
C'est surtout selon les post-saisons, puis les captures par année que le monde prenne. Parce que les années que c'est bon, les quotas ont tendance à monter quand le post-saison est bon aussi. Quand les indices indiquent à la hausse, mm-hmm. les quotas remontent. Dans la saison, ça s'est maintenu, la pêche était bonne. Puis le post-saison était un petit peu moins bon, mais quand même, il n'y avait pas de danger pour garder le même quota que l'année précédente. Fait que ça restait statu quo pour la saison.
Vous attendiez-vous à une hausse ou une baisse avant le début de la saison?
Non, on s'attendait pas mal à ça.
À ça, finalement. Oui, OK. Oui. Est-ce que le fait que vous ayez pêché votre quota si rapidement, ça signifie qu'il y a quand même plus de crabes puis que ça aurait été possible d'en capturer plus? Est-ce que vous pensez que le quota aurait pu être plus
élevé? Belle fun, c'est sûr qu'on dit tout ça. Mon début de la saison, c'est sûr que le crabe embarque mieux, puis on fait des meilleures levées. Mais c'est ça. Le post-saison détermine ce qui reste sur les fonds après la saison. Donc, quand le post-saison n'est pas bon, ça ne nous aide pas, point de vue des sciences.
OK.
Puis, c'est calculé selon la grosseur de la carapace, le jeune adolescent qui grandit, qui va venir dans nos prochaines saisons. C'est tout ça est mesuré pour les années qui vont venir.
OK. À quoi vous attendez pour l'année prochaine? Est-ce que le poste...
Ben là, présentement, la pêche est très bonne. Ouais. Donc, ben l'année passée ici, la saison était quand même bonne, meilleure que d'habitude. Puis, c'est ça. On espère bien gros qu'on va augmenter encore un peu l'année prochaine. Mais ça augmentera jamais de gros. Ça va des 10-20% d'augmentation. Ouais, ouais, ouais. Ce ne sera pas des grosses augmentations. À moins qu'il y aurait quelque chose de spécial qui se passerait. Mais non, je pense que ça va plus être. Ça va être calculé chaque année, comme d'habitude. Là.
Puis, à tête à la baleine, ici, dans la zone 14, il y a eu une diminution de 15%.
Oui, de 15%, oui.
Ça, vous attendiez aussi à cette diminution-là? Ou...
Bien, la pêche était quand même assez bonne, meilleure que d'habitude.
OK.
Mais le post-saison était un désastre. Ça fait que... On devrait-tu croire au post-saison? On devrait-tu plus le croire? Cette année, ça va nous prouver, ça va nous quand même nous dire si la pêche est bonne, que le post-saison est un peu broyé. Il y avait des facteurs qui ont affecté le post-saison aussi, la puce de mer qui mange tous les appâts. Ça faussait un peu les données. Enfin, c'est ce qu'on a plaidé un peu ici aux sciences. C'est un peu pas nécessairement une bonne indice. Parce que quand que les appâts sont tous mangés par la puce de mer, ben les appâts, les purines vont attirer le crabe.
Okay.
Donc le crabe n'embarque pas d'un casier.
Je reviens à tout à l'heure, vous avez dit en début de saison, la pêche est bonne normalement. Qu'est-ce qui fait que là, les crabes embarqués dans le casier? Les
casiers, embarqués, je pense, sont plus affamés. Mm-hmm. Sont plus affamés. Puis sont plus concentrés au même endroit.
Okay.
Le crabe est plus concentré, donc parce qu'il y a moins d'appâts sur le fond. Le crabe est moins concentré, est plus concentré le printemps que je vous dirais en juillet. En juillet, est-ce que le crabe est un peu partout, mais pas en grande quantité.
Mm-hmm, okay.
À cause qu'il y a de la poisse sur le fond, puis il y a bien des choses, que le crabe change d'endroit. Il y a bien des petites choses là-dedans. Des fois, on pense qu'on connaît ça vraiment, mais des fois,
il arrive à vous surprendre encore avec ces années-là.
Oui.
On a beaucoup parlé dans les médias, là, entre autres, du prix du crabe. Comment vous vivez ça, vous, quand vous êtes sur un bateau? Là, j'ai appris moi-même que vous apprenez le prix du crabe carrément en arrivant à l'usine là, puis en vendant vos...
Carrément. Cette année, le prix, il nous donne un peu moins cher que l'année passée. Présentement, on l'a 7,5 $. L'année passée, on l'a vendu à 8 $, qui est quand même très, très, très bon. Mais on attend l'autre bord, la Gaspésie, qu'ils vendent à 12 $ de la livre. Puis, c'est sûr que le consommateur n'est pas très content de ça.
Mm-hmm.
C'est très cher pour le consommateur, mais pour les pêcheurs, c'est quand même bon. Bon, mais on sait que c'est dangereux aussi, que le consommateur arrête d'en manger, puis il va rester ses tablettes, puis les prix vont chuter. On sait tout ça, c'est un montagne russe pas mal. Mais on espère bien que ça va rester quand même un prix stable.
Mm-hmm.
Il y a le marché américain qui est très bon présentement. Ça, c'est sûr, ça affecte nos prix beaucoup si le consommateur l'achète pas. On espère bien qu'il n'achète.
Qu'est-ce qui fait qu'en Gaspésie, il est acheté plus cher qu'ici, par exemple, ou les pêcheurs reçoivent plus qu'ici?
Ben, je sais pas trop. Je pense qu'ils l'amènent sur le marché plus vite que nous autres. Puis, ils ont beaucoup de poissonneries dans le coin aussi.
Okay.
Mais si le consommateur ne l'achète pas, et en tout cas, le prix, d'après moi, le prix va se réajuster nous autres aussi. Le marché est frileux à cause de la guerre aussi. Ben des choses qui vont en ligne de compte. Ouais.
Fameux prix de l'essence dont tout le monde parle, est-ce que ça a affecté vos
activités? Ça affecte beaucoup tout le monde sur le bateau parce qu'on est au pourcentage.
Mm-hmm.
Notre revenu est au pourcentage. Puis, c'est sûr que le prix de la boîte aussi est rendu à 1 $. On l'a payé le hareng à 1,50 $. Non, 1,25 $. Puis le maquereau à 1,55 $. Puis le fuel, je pense, à 1,80 $ qu'on l'a payé du litre. quand je remplis mes réservoirs, c'est 10 000 litres.
Ah oui, hein, ça...
ça consomme aussi quand même beaucoup. Mais c'est ça, c'est... le prix compense.
Est-ce que globalement, on peut dire que c'est une bonne saison pour vous?
Ben, ça commence seulement. Ouais. Mais que j'ai atteint mes quotas, je vous en parlerai.
C'est bon.
Mais moi, présentement, oui, c'est bon. C'est très bon. C'est seulement 12 500 livres quand même, présentement. Quand les quotas vont atteindre, qu'on a le prix quand même, ça va être une bonne saison, oui, oui.
Bon, quand M. Monger parle de la boîte, il s'agit bien de poches de hareng. Aussi, on utilise le maquereau quand on pose les casiers au fond de la mer, les cages au fond de la mer. Les quotas de pêche ont augmenté d'environ 15 % en 2022.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Le projet de loi 156 sur l'éducation acadienne et francophone a été déposé le 12 avril dernier à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. La communauté francophone s'était enthousiasmée lorsqu'il a été déposé, mais faute d'un accord entre les députés à l'Assemblée législative, son étude a été reportée. La question de la protection et de la promotion de l'éducation en français est à l'ordre du jour depuis des décennies dans cette province. L'étude de ce projet de loi privé, écrit d'ailleurs en collaboration avec le Conseil scolaire acadien provincial, CSAP, et présenté par le député libéral de l'opposition, Ronnie Leblanc, devra attendre. L'initiative du député Leblanc avait suscité espoir et confiance chez ceux, et d'ailleurs nombreux, qui attendaient de faire enfin bouger le système éducatif francophone dans cette province. Le Conseil scolaire acadien provincial, qui par voie de communiqué souligne le fait que l'éducation en français, langue première, en Nouvelle-Écosse, n'a jamais été revisée ou réformée depuis la création du CSAP en 1996, et ce, malgré sa croissance au fil du temps, les développements juridiques importants concernant les droits de la communauté acadienne et francophone, garantis d'ailleurs par la Charte, et la réforme de l'éducation en langue anglaise, amorcée par la province en 2018. Alors, le Conseil scolaire acadien provincial, qui ajoute que le projet de loi 156 édicterait une loi scolaire conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, séparée et indépendante, le CSAP exhorte les parlementaires à travailler ensemble pour assurer son adoption et en faire un moment historique pour l'éducation en français, langue première en Nouvelle-Écosse et au Canada. La Nouvelle-Écosse peut servir d'exemple pour tout le Canada en adoptant le projet de loi déposé à l'Assemblée, précise M. Marcel Cotreau, président du CSAP. Ronnie Leblanc, membre donc de l'opposition et député du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et co-auteur du projet de loi, témoigne au micro de notre journaliste Sébastien Beltran de son engagement à voir aboutir ce projet de loi. Vous l'entendrez souvent citer le nom du CSAP. Il s'agit bien, on vous le rappelle, du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse.
Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
J'ai pu regarder avant cette entrevue ce que mes confrères journalistes avaient écrit sur le sujet. Alors, on y parle de gouvernance, on y parle d'éducation, de contrôle et de consultation. Il est écrit dans le projet de loi qu'il doit permettre d'obtenir un enseignement et des résultats équivalents à ceux atteints dans les écoles publiques régies par la loi intitulée Education Act. Alors, pourquoi aujourd'hui les résultats ne sont pas équivalents alors qu'on s'attendrait au niveau provincial à des objectifs communs en matière d'éducation? Alors, qu'est-ce qu'un étudiant francophone a de plus ou de moins qu'un étudiant anglophone?
Un parfait exemple, c'est, disons que le système anglophone, les notes ou les marques en mathématiques sont extrêmement basses. Le département pourra dire, j'allons investir 2 millions de dollars pour essayer de, tu sais, augmenter ces notes-là. Ça se fait que les notes en mathématiques dans le système du CSAP sont une des plus fortes au Canada, mais la manière que l'argent sera distribué, ça sera pour être dépensé sur les mathématiques. Donc, ils ne prennent pas en considération les enjeux ou les différences qu'il y a entre le système du CSAP ou les écoles du CSAP et l'éducation puis celle de l'anglais. peut-être les francophones ont des certaines difficultés dans certains sujets, les anglophones dans différents sujets. Ils devraient avoir une manière pour faire ces distinctions-là puis investir lorsque ça va faire le plus de bien pour amener les deux systèmes en égalité quand ça va les performances, les notes et ces choses-là.
Ben vous faites très bien la transition parce que je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'avoir deux systèmes éducatifs qui fonctionnent indépendamment les uns des autres n'est pas un peu dangereux? Alors, je m'explique. Est-ce qu'on ne prend pas le risque d'avoir un système à deux vitesses, l'un qui fonctionne bien quand le gouvernement est pro-francophone et l'autre qui est à la traîne quand le parti politique au pouvoir n'en fait pas une priorité?
Oui, je veux dire, à croire que cet argument-là peut être fait, mais la réalité, c'est que les francophones, les Acadiens francophones de Nouvelle-Écosse se trouvent en situation minoritaire. C'est toujours une bataille de garder ou sauvegarder notre culture, notre langue. Puis une manière de faire ça, c'est assurer que le système d'éducation en français va être ici dans 25, 50, 100 ans. La réalité de notre situation ici en Nouvelle-Écosse, c'est que la grande majorité de la population est anglophone. La grande partie des bureaucrates, des politiciens sont anglophones. Ça, c'est pour assurer qu'on se trouve dans une bonne situation quand ça vient à la gouvernance du système d'éducation en France.
Alors, pour conclure, mais vous avez été élu en 2021, vous personnellement, et le parti a basculé dans l'opposition à ce moment-là des élections. Alors, cette question sur l'éducation qui semble fondamentale pour la communauté, pourquoi n'a-t-elle pas été proposée avant? Et maintenant que vous êtes dans l'opposition, comment faire pour que la loi soit adoptée?
Oui. Si je réalise que le Parti libéral est en pouvoir, est en fait travailler dessus, et il y a eu des difficultés à le faire avancer, mais quand ce que Ian Rankin a devenu premier ministre, c'était une de ses priorités, c'était à faire avancer cette loi ici. Il était seulement premier ministre pour 6 mois, mais dans son terme, il a établi un comité avec les députés, le député ministre du département d'éducation. Il a rentré le CSAP, il a rentré Lina Diab, qui était responsable pour les affaires acadiennes. Il avait quelqu'un de l'office du premier ministre à la table. Dès qu'il a devenu premier ministre, il a travaillé extrêmement fort pour faire avancer ce programme de loi ici. Et c'est à son intention et c'est à sa promesse à la communauté acadienne que si qu'il rentre en gouvernement, que ça allait être une des premières lois qu'il allait déposer. Donc, quand moi, j'essaie de me décider si je voulais me présenter pour le Parti libéral et devenir un député, une de mes priorités va être, et en discussion avec le chef, cette texte loi ici est extrêmement importante pour la communauté acadienne et pour le CSAP, et qui m'avait assuré que si formions le prochain gouvernement ou le gouvernement de nouveau, que ça allait avancer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et de l'élection, j'espère avoir le gouvernement du jour, le gouvernement PC, travailler avec le CSAP pour prendre le travail qui avait déjà été fait, qui est une grande partie du travail, puis là, l'avenir à une autre étape pour qu'il puisse l'introduire. Mais ce n'est pas ça qui est en train d'arriver. Il n'y avait pas beaucoup de je ne veux pas dire d'intérêt. Il y a beaucoup de priorités dans le gouvernement, puis je comprends ça, la santé, on peut les nommer. Mais en même temps, c'est certainement une priorité pour la communauté acadienne, puis vous la voir ça comme une de leurs priorités. Puis à ce point-ci, c'est quoi qui peut-être qu'ils pensaient faire dans le futur, mais il n'y avait pas d'indication que c'était une priorité. So, en tant que député et critique des affaires acadiennes, en travaillant avec les communautés CSAP, je pensais que c'était une bonne façon à venir la discussion, à déposer la loi, le mettre dans la chambre pour un débat, montrer l'importance de l'apport des communautés acadiennes et CSAP que ce loi-ci fut adopté, puis que ça avancera le discours et ça commencera le débat sur ce loi-ci qui est très important.
Alors, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai lu les différents articles, qu'au final, le gouvernement, comme l'opposition, considère que c'est quelque chose d'important pour les communautés francophones. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un consensus, une unanimité qui fait qu'on pourrait trouver une solution ou un dénouement rapide à cette question? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre et repousser d'échéance en échéance?
Oui, vraiment, comme député d'une région de circonscription acadienne, il n'y a rien, j'aimerais plus de voir que les trois partis établir un comité, tu sais, l'NDP, libéral, avec des membres qui représentent des communautés acadiennes, puis qui se mettent au travail pour, tu sais, signer des modifications à faire, les faire, mais que ça qu'on pourra travailler ensemble pour faire avancer ce programme de loi ici. C'est-à-dire l'intention, mon intention et l'intention du CSAP, ce qu'ils veulent voir, c'est le programme de loi introduit et passé. La manière qu'on se rend là, c'est ça qui est difficile. Mais moi, je ne suis pas là à supporter que ce soit un comité, que ce soit le gouvernement du jour. Pour moi, c'est que la loi s'est adoptée. Je ne suis pas là à travailler avec n'importe qui pour faire ça arriver, honnêtement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont les étapes pour cette loi? Comment ça va se terminer?
C'est difficile à dire. Avons introduit la loi, c'est une loi de sens impair écrite en anglais, puis en français. On comprend que tu sais, le gouvernement a une certaine responsabilité de passer à travers les deux lois fâchées qui s'enlignent. Je suis pas mal confiant que c'est une loi qui est extrêmement bien écrite et qui pourra passer telle qu'elle est présentée. Mon espoir, c'est qu'ils allons prendre un petit temps, mais pas trop de temps, à passer en travers, puis là, commencer à avoir des discussions avec le CSAP et les communautés pour voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble pour faire avancer ce programme de loi ici.
Bon, bien, on suivra l'évolution du projet avec attention. Oui. Merci, monsieur le député. Donc, je rappelle que vous avez été élu à l'Assemblée législative au sein du Parti libéral, et que vous êtes co-auteur du projet de loi sur l'éducation acadienne et francophone.
Merci.
Et bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par nos journalistes postés à travers le pays. Rendez-vous donc sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous le savez, on est branché sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. Écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, aussi sur le site web. On remercie nos journalistes, donc Vincent Savard, Sébastien Beltran, Pénélope Clermont et leurs invités, bien sûr. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique, comme d'habitude, et à notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.
90.3 FM.
Bonjour et bienvenue à l'émission Point de vue. Ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de l'émission, les droits des élèves de l'Alberta enchâssés dans un guide scolaire.
On voulait un guide pour que tout le monde, tous les élèves, tous les parents, tout le monde qui est impliqué dans la vie scolaire puisse savoir c'est quoi leurs droits à l'école et c'est quoi leurs droits en général et en plus leurs droits comme personne de LGBTQIA+.
Québec lance la saison touristique estivale en offrant des billets d'avion régionaux à 500 $ ou moins aller-retour.
On espère qu'il va en avoir assez. Ce serait quand même curieux d'avoir deux personnes qui prennent l'avion, une personne qui paye 500 $ puis l'autre qui est assis juste à côté, qui est à 1200 ou à 1300. Ce serait quand même quelque chose qui serait difficile à comprendre. Fait qu'on souhaite qu'il y ait assez de billets pour tout le monde, pour tous ceux qui voyagent, pour les gens qui se déplacent de la région. C'est une demande qu'on a.
La néo-écossaise de Mattia Roach est de retour au Canada après avoir fait mouche à l'émission Jeopardy. Elle remporte 23 victoires et une bourse de 560 000 $ américains. Et à Halifax, le conseil communautaire du Grand Havre célèbre ses 30 ans d'existence au service du renforcement de la présence francophone en Nouvelle-Écosse.
On était très excités d'avoir un endroit qui nous appartenait, puis que c'était géré par nous et on pouvait décider quand qu'on allait l'utiliser. Ça nous donnait un grand sentiment de fierté.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
L'Association des juristes d'expression française de l'Alberta et le Comité franco-queer de l'Ouest ont joint leurs forces et viennent de lancer en Alberta un guide qui traite des droits des élèves dans cette province canadienne. Intitulé « Quels sont mes droits à l'école? », ce guide a été produit pour aider, guider et renseigner les adolescents âgés de 12 à 17 ans ainsi que leurs parents sur les droits des personnes de toute orientation sexuelle. Ce guide parle entre autres des droits des allosexuels, des hétérosexuels, du droit à la vie privée et de la lutte à l'intimidation comme de l'exclusion et des accommodements raisonnables. Ce guide a été produit par une équipe multidisciplinaire et intergénérationnelle. Denise Lavallée, directrice générale de l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, Pauline Blais, avocate attitrée à la révision du guide, Rose Eva Forgue-Jenkins du Comité franco-queer de l'Ouest et deux élèves de l'école Michael Jean ont travaillé à la rédaction de ce guide. Rose Eva Forgue-Jenkins du Comité franco-queer de l'Ouest a accepté d'en parler au micro de notre journaliste Vincent Savard, posté à Edmonton.
Bonjour, Rose Eva.
Bonjour.
Pourquoi il était important de créer ce guide-là?
Bien, c'était important parce que il y a beaucoup de lois sur les qu'est-ce que les élèves peuvent faire dans les écoles, comment on peut créer des AAH, des alliances allosexuelles hétérosexuelles. Il y a beaucoup d'informations sur ceci dans, disons, des, tu sais, c'est écrit d'une manière plus bureaucratique dans the Education Act par exemple, et c'est écrit d'une façon que des fois les, tu sais, les personnes dans les conseils scolaires, les éducateurs, les élèves, pour eux autres, trouver cette information, ce n'est pas toujours facile. Donc, on voulait un guide pour que tout le monde, tous les élèves, tous les parents, tout le monde qui est impliqué dans la vie scolaire puisse savoir c'est quoi leurs droits à l'école et c'est quoi leurs droits en général et en plus leurs droits comme personne de LGBTQIA+.
Et puis, ça date de combien de temps là, que vous entreprenez ces démarches-là pour établir ce guide-là avec la JEFA, l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta?
C'est une bonne question. Je ne peux pas te dire la date exacte parce que moi, je n'étais pas là. Moi, j'ai rejoint le Comité franco-queer de l'Ouest en mai 2021. Mais le guide, ça fait c'était avant, les personnes avant qui ont... ça fait longtemps qu'ils parlent de ceci. S'il fallait que j'estime, je dirais peut-être 2020, peut-être même 2019. Je ne sais pas exactement. Mais je sais que c'était Emmett Lamache, le coordinateur à ce temps-là, qui a lancé l'idée à l'AGFA. Et l'AGFA, on est très reconnaissants qu'ils ont dit « Oui, on veut vous aider, on veut vous supporter. » Et c'est comme ça que le guide est arrivé.
Dans ce guide-là, on parle, oui, beaucoup des droits des personnes, comme par exemple des accommodements raisonnables, d'une alliance allosexuelle hétérosexuelle, du droit à la vie privée également. Pour un adolescent de 12 à 17 ans, est-ce que ça peut être intimidant parfois, puis justement d'entreprendre des démarches avec des adultes comme les membres de la direction? Est-ce que vous, le comité franco-queer et la JEFA, va être là pour appuyer les élèves qui auront besoin?
Oui, exactement. Le comité franco-queer, c'est vraiment notre raison d'être. On veut être une ressource pour les jeunes de LGBTQIA+ et leurs alliés dans les écoles. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce guide, et on a aussi inclus toutes nos informations de contact, toutes autres ressources pour que si un élève veut faire une demande, qu'on est là pour leur appuyer. Ce guide donne une démarche pour comment commencer ceci. Par contre, je peux comprendre comment un jeune de 12 ans aller parler à sa direction, dire « je veux une salle de bain de genre neutre », c'est très, très, très intimidant. Donc, on veut vraiment être là pour accompagner n'importe qui veulent faire ces demandes. On veut être là pour aider les élèves, aider tout le monde, les conseils scolaires en plus, peut-être qu'ils vont dire « on a reçu cette demande, on ne sait pas exactement quoi faire ». On veut être là pour aider tout le monde pour qu'on puisse inclure les personnes de LGBTQIA+ de manière pleinement.
Quelles sont les réactions des écoles quand on parle d'alliances allosexuelles, hétérosexuelles, également d'accommodements raisonnables?
Oui, ben il y a différentes réactions comme on peut imaginer. On est très, très content d'avoir des alliés. Par exemple, l'école Michel-Jean est venue ici pour... et deux élèves ont venu au lancement du guide et ont parlé de comment c'est important pour eux, comment leurs écoles leur supportent. Donc, on est super content d'avoir des alliés avec des écoles comme Michel-Jean qui sont vraiment là pour supporter leurs élèves de LGBTQIA+ et leurs alliés. Et certains qu'il y a d'autres écoles que peut-être qui ont plus de réticence, mais on est ici pour avoir des conversations de, c'est vraiment, on a hâte de travailler plus avec ces conseils scolaires dans n'importe quelle façon que ça fonctionne pour eux.
Et puis en terminant, une alliance allosexuelle hétérosexuelle va-t-elle éliminer progressivement l'intimidation et l'exclusion? Parce qu'on inclut tout le monde dans ces alliances-là. Là. Autant les hétérosexuels comme les homosexuels, tout le monde est inclus.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on dit une alliance allosexuelle hétérosexuelle. C'est vraiment pour tout le monde, les alliés, tout le monde qui est pour la cause de LGBTQIA+. Donc, c'est important pour, d'avoir un espace pour que les élèves se sentent sécuritaires et pour les élèves qui sont dans cette AAH et aussi pour les élèves que peut-être, tu sais, ça ne leur voit pas, ce n'est pas quelque chose qu'ils sont intéressés, mais au moins, ils savent que ça existe dans leurs écoles. Donc, on sait que c'est une école où est-ce que l'intimidation des personnes de LGBTQIA+, ce n'est pas quelque chose qu'on accepte. Donc, c'est vraiment important d'avoir ceci dans les écoles pour que les jeunes puissent avoir quelque part sécure à aller et qu'on vraiment, on donne l'impression à tous les élèves que c'est vraiment une cause importante et qu'on supporte tout le monde et que tout le monde est accepté.
Merci beaucoup, Rose-Eva Forgue-Jenkins. Merci beaucoup.
Mon plaisir.
Bon, vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce donc une personne allosexuelle? Eh bien, le répertoire de l'Université de Sherbrooke au Québec en esquisse la définition comme une personne, et je cite, qui ne se définit pas par les catégories traditionnelles de genre et d'orientation sexuelle. Et le magazine Fugue, ici au Québec, précise que le préfixe allo signifie ni l'un ni l'autre, et qu'allosexuel décrit donc une catégorie de gens qui ne sont pas simples hétérosexuel.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Les Québécois reçoivent depuis quelque temps des cadeaux de leur gouvernement provincial. Serait-ce qu'on serait passé en mode préélectoral? On n'en est pas certain, mais les partis d'opposition affirment que c'est pourtant le cas. Les élections provinciales qui sont programmées pour le mois d'octobre 2022 au Québec. Après un chèque de 500 $ qui sera retourné à plus de 90 % des Québécois pour leur permettre de faire face à l'inflation, voilà que Québec, via son ministre des Transports, François Bonnardel, assisté de Caroline Proulx, ministre du Tourisme, et de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, annonce que les Québécois pourront prendre l'avion partout au Québec et y faire des allers-retours à 500 $ maximum. Le plan québécois de transport aérien régional, dont les paramètres et limites demeurent nébuleux, sera en place dès le 1er juin. 50 millions de $ par année et pour 5 ans, voilà ce que cela va coûter aux contribuables, qu'ils en profitent ou non. Imaginez, le trajet entre Montréal et les îles de la Madeleine pouvait facilement coûter entre 1 200 et 1 500 $. Vous le devinez, la saison du tourisme va se prolonger avec ces tarifs qui promettent d'être réduits. La ville minière de Fermont sur la côte nord, ça c'est bien dans le nord du Québec. Là-bas, on espère que la mesure va en attirer plus d'un et peut-être propulser, qui sait, le tourisme hivernal. Les fly-in, fly-out, les travailleurs, travailleuses miniers ne seraient pas en théorie éligibles à cette mesure réservée aux résidents et aux touristes. Notre journaliste Élisabeth Séguin discute avec le maire de la ville de Fermont, Martin Saint-Laurent, de ce plan québécois de transport aérien régional et des effets de cette nouvelle mesure.
Martin Saint-Laurent, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Vous avez eu le temps d'étudier un peu ce qui a été annoncé à la mi-avril. C'est quoi vos premières pensées là, concernant cette initiative-là d'avoir des billets à 500 $?
Tout d'abord, je suis quand même content de voir que le gouvernement veut s'attaquer à la problématique que les billets d'avion sont trop dispendieux pour voyager en région. Regarde, je pense que tout le monde, ça fait l'unanimité. On souhaite que les billets se soient moins chers, qu'on soit capable de se déplacer, que ça ne coûte pas 1 000 ou 1 200 ou 1 500 tout dépendant quand tu réserves pour s'en aller à Québec ou à Montréal. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, dans le programme qui est annoncé, il y a des faits qu'on ne sait pas. Ils annoncent des billets à 500 $, c'est pas illimité. Il y a un nombre maximum de billets. Je ne sais pas si ça va être par vol, par jour, par semaine. On n'a pas de données là-dessus. Ça va être important de savoir un peu qu'est-ce que ça va entraîner, puis est-ce qu'on va vraiment avoir la possibilité de les avoir à 500 $, puis est-ce qu'ils vont en avoir une quantité suffisante pour toutes les personnes qui vont vouloir se déplacer en dehors de la région.
Il faut dire, à Fermont, il y a beaucoup de gens qui se déplacent justement pour différentes raisons, raisons essentielles, raisons médicales, raisons de se promener également. Il y en a qui vont voyager, qui vont voir leurs parents, par exemple, dans d'autres régions du Québec. Donc, le service aérien est extrêmement prisé ici à Fermont, depuis l'aéroport de Wabush, bien sûr. Est-ce que vous avez un peu une inquiétude par rapport au fait que, justement, ce ne sera pas tout le monde qui va pouvoir peut-être bénéficier de ce 500 $-là, qu'il y en a d'autres qui vont devoir un peu continuer de payer le plein prix comme avant?
Effectivement, c'est une dynamique là, qu'on ne connaît pas pour le moment. On ne sait pas le nombre de billets. On espère qu'il va en avoir suffisamment, mais tu l'expliques, il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent. Puis à l'occasion, on peut faire venir des gens de la parenté qui peuvent nous visiter. Donc, on espère qu'il va en avoir assez parce que ce serait quand même curieux d'avoir deux personnes qui prennent l'avion, une personne qui paye 500 $ puis l'autre qui est assis juste à côté, qui est à 1 200 ou à 1 300, ce serait quand même quelque chose qui serait difficile à comprendre. Fait qu'on souhaite qu'il y ait assez de billets pour tout le monde, pour tous ceux qui voyagent, pour les gens qui se déplacent de la région. C'est une demande qu'on a. Puis l'autre fait aussi qui aide, c'est d'enlever le maximum par personne par année. C'est le 40 % qu'on peut déduire. Ils ont enlevé le maximum. Donc, pour les gens qui voyagent beaucoup, je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles dans cette annonce, mais il y a quelques points où c'est que ça devient difficile de se prononcer si on va en avoir suffisamment.
Évidemment, c'est des détails qu'on va pouvoir constater lorsque le tout va être en application à partir du mois de juin, du moins pour les billets à 500 $. Évidemment, on parle des résidents de Fermont aussi qui ont besoin du service aérien pour se déplacer, les gens pour venir ici. Vous l'avez mentionné, les gens, ça se pourrait qu'on ne sait pas encore à quel point les gens vont avoir la possibilité d'avoir accès à ces billets à 500 $-là. Mais il faut se rappeler quand même que les prix demeurent quand même très élevé au moment où on se parle pour se déplacer vers Fermont ou à l'extérieur de Fermont.
Définitivement, les prix sont trop élevés. Ça fait en sorte que les voyages, peut-être, sont moins réguliers. On va éviter des déplacements parce que c'est trop dispendieux. Le programme, bon, ils ont expliqué que ce ne serait pas pour les travailleurs, ce serait pour les résidents ou les touristes. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment ils vont faire ce contrôle-là. Il y a des entreprises qui viennent faire des contrats, puis ont la possibilité d'inscrire leurs travailleurs sur le billet. C'est pas nécessairement la compagnie. Puis, quel genre de contrôle qu'on va avoir là-dessus? Bien, ça aussi, c'est une dynamique qu'on connaît pas. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour réussir à cibler vraiment les résidents et les touristes pour attribuer les billets à 500 $.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant que vous parliez de tourisme, en fait, parce que c'est une des facettes de ce plan-là, c'est de pouvoir faire la promotion du tourisme à travers le Québec, que les gens voyagent à travers les différentes régions pour pouvoir les découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir et que le transport aérien devienne un moyen pour que les gens puissent justement aller mieux découvrir leur province. Ici, à Fermont, ils ont beaucoup vendu, en fait, dans le point de presse, les îles de la Madeleine, la Gaspésie, des endroits qui sont un peu plus exotiques, qui sont vraiment des destinations touristiques souvent. À Fermont, c'est sûr qu'on a une dynamique différente côté tourisme. C'est surtout le tourisme hivernal qui est mis de l'avant, mais êtes-vous quand même confiant que ça pourrait décider des gens à venir visiter Fermont avec ce programme-là?
Bien, je crois que ça a la capacité de faire une différence. C'est sûr, tu l'as expliqué, dans la conférence de presse, c'est pour tout le Québec. Donc, il y a des endroits qui sont beaucoup plus touristiques. Donc, eux, c'est le tourisme qui voit avec ce programme-là d'augmenter. Pour nous, c'est différent un petit peu, mais quand même, c'est à développer. On a des belles possibilités. Je pense que l'hiver, c'est très bien. On a des possibilités de développer le tourisme d'hiver. Puis aussi, en été, pourquoi pas, les pourvoiries, les pêcheurs. Mais je pense qu'il faut travailler tout ça, mais il y a des possibilités. C'est sûr qu'à 500 $, c'est beaucoup, c'est attirant, c'est différent. Parce que quand tu commences un voyage puis que le billet d'avion aller-retour te coûte 1300 $, ben c'est beaucoup plus difficile de faire peut-être un voyage de groupe ou avoir un déplacement, mettons, on va donner un exemple, que ce soit un organisme qui se déplace pour une fin de semaine ces jours-là, peut-être qu'ils vont voir ça différemment s'il y a des billets beaucoup moins chers que de prendre la route ou voyager ou que des jeunes en compétition dans le Québec à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'il faut juste voir puis s'assurer qu'on a des billets disponibles.
Il y a aussi la coopérative Trek qui propose des frais, justement, de billets d'avion semblables à ce 500 $-là. On se rappellera dans leur promotion là, de ce qu'ils veulent faire. C'est, par exemple, un billet Wabush-Montréal, c'est aller-retour, c'est 500 $. Donc, c'est quand même dans les mêmes prix. Est-ce que vous continuez d'appuyer Trek dans leurs différentes initiatives présentement? C'est sûr que ça n'a pas été mentionné dans le cadre de cette conférence de presse-là, s'il y avait un soutien ou pas dans le projet de Trek. Mais j'imagine qu'à la ville de Fermont, vous continuez de soutenir ce projet-là?
Définitivement, je crois à ce projet-là. D'avoir une coopérative pour d'aviation pour donner un service à ses membres en réalité, parce qu'on en a plusieurs exemples dans notre communauté, que ce soit la radio, la coopérative alimentaire, Diffusion Fermont fait partie de ça. C'est sûr, on a une pourvoirie aussi. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des belles possibilités. C'est un CA, il s'assure de donner un service à ses membres. Donc, c'est une formule que je crois beaucoup. Effectivement, dans la présentation qu'ils ont faite, dans l'annonce, il n'y a pas de place où ils n'ont pas mentionné qu'ils appuyaient Trek. C'est une déception, mais on va quand même continuer à travailler ce dossier-là parce que j'y crois. Puis je suis convaincu qu'il y a de la place. Même le samedi, si tu veux revenir, il n'y a pas d'avion. Tu dois attendre au dimanche. Donc, d'aller pallier un peu à ce manque de service-là, c'est une belle possibilité. Il faut juste être, je pense, persévérant dans ce projet-là.
Évidemment, c'est un dossier qu'on va suivre à partir du 1er juin. C'est là que ça va être en marche, le nouveau plan en matière de transport aérien régional au Québec pour ce qui est des billets à 500 $. Donc, on aura l'occasion de probablement s'en reparler bientôt. Martin Saint-Laurent, maire de Fermont, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Une jeune néo-écossaise de 23 ans est passée à l'histoire récemment. Mattea Roach a remporté 23 victoires au jeu questionnaire américain Jeopardy, mais aussi une bourse de plus de 560 000 $ américains. Son banquier torontois devrait être lui aussi aux anges. L'exploit de Mme Roach a été suivi de près par les citoyens du Cap-Breton,
Elle est néo-écossaise d'origine et les Canadiens, d'un bout à l'autre du pays, ont aussi appris à connaître Mattia Roach. Le parcours de Mme Roach a pris fin le vendredi 6 mai dernier, alors qu'elle a été devancée d'un seul dollar par un autre concurrent de l'émission. Grâce à son exploit, Mattia Roach est maintenant la plus jeune super championne de l'histoire de l'émission et la cinquième de tous les temps. Elle s'est qualifiée pour le tournoi des champions de l'émission Jeopardy, qui sera diffusé à l'automne 2022. Le Conseil communautaire du Grand Havre célèbre ses 30 ans d'existence et l'organisme a marqué le coup en mai dernier lors d'une soirée festive et musicale. Dans les années 1970, les francophones associés au Club français et à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ont reconnu la nécessité de fonder un centre culturel dans cette région. L'idée de fonder un lieu de rassemblement communautaire a alors germé. Jean-Guy Deveaux, l'un des bénévoles les plus actifs pour la création de ce centre communautaire, l'assure, la tâche n'était pas facile, mais la détermination était grande. Les francophones concrétisent leur projet finalement 21 ans plus tard, en 1991. 30 ans après ses débuts, le Conseil communautaire du Grand Havre poursuit sa mission de rassemblement et de renforcement de la communauté francophone acadienne. Il a célébré son 30e anniversaire à l'école Le Carrefour, laquelle a vu naître une communauté fière, unie et déterminée. Notre journaliste Sébastien Beltran fait son devoir de mémoire en compagnie de l'un des membres fondateurs du Conseil communautaire du Grand Havre, Jean-Guy Deveaux.
Depuis 1992, la communauté francophone à Halifax s'est transformée et s'est organisée. Elle le doit en partie au dynamisme de son réseau associatif et en particulier du Conseil communautaire du Grand Havre. Alors celui qui témoigne de cette histoire n'est rien d'autre que Jean-Guy Deveaux, l'un des personnages clés dans le combat pour le développement d'une communauté forte et autonome. Il nous explique comment les membres de cette communauté s'arrangeaient pour organiser des événements avant la création du Conseil communautaire du Grand Havre.
Bien, moi, je suis arrivé dans la communauté au début des années 80. Et puis, on avait plusieurs organismes francophones, comme le Club français, le Festival acadien, le Comité régional de la FAN, etc. Et puis, on devait trouver des locaux pour faire des activités, comme on aurait pris une salle de l'université, ou bien emprunter une salle ou un gymnase d'école, etc. Et puis, on faisait du mieux qu'on pouvait pour faire des activités communautaires, pour célébrer la culture.
Après un combat laborieux qui a duré près d'une dizaine d'années, le Conseil communautaire du Grand Havre voit le jour en septembre 1991, en même temps que la première école francophone du Carrefour. Il y a à ce moment-là la naissance d'un conseil scolaire francophone autonome qui s'appuie sur le conseil communautaire pour la gestion de différents services, comme la cafétéria notamment, qui servait pour les écoliers, mais aussi pour la communauté en dehors des heures d'études.
Lorsque la cafétéria n'était pas utilisée par l'école, on faisait des repas, des soirées spaghetti, des choses comme ça. La traditionnelle sucrerie d'érable au printemps, on organisait ça au Carrefour du Grand Havre aussi. On faisait des barbecues communautaires et on faisait venir des spectacles à la salle Georges Cottreau. On avait des films à tous les mois, des films en français à la salle Georges Cottreau aussi. On organisait des activités sportives au gymnase les soirs. Donc, on était très excités d'avoir un endroit qui nous appartenait puis que c'était géré par nous. Et on pouvait décider quand qu'on allait l'utiliser, Et puis, ça nous donnait un grand sentiment de fierté.
Jean-Guy Deveau, qui est très impliqué pour la réalisation du projet depuis le début des années 80, est surnommé affectueusement le maire par la communauté à cause des fonctions et de son implication au profit des francophones. Ce titre est non officiel, bien sûr, mais il traduit bien une réalité, celle d'une communauté qui s'organise pour faire aboutir des projets. Parmi ceux-ci, Jean-Guy ne cache pas sa fierté pour les camps de jour et la crèche, qui connaissent toujours un succès 30 ans après.
L'autre chose, c'est le service de garderie francophone, le petit voilier. C'était le conseil communautaire, en collaboration avec le conseil d'école francophone, qui gérait la garderie, parce que ce n'était pas un service qui était offert par les conseils scolaires à l'époque. C'était un service privé. Donc, le conseil communautaire du Grand Havre gérait l'entité de la garderie du Petit Voilier et puis s'occupait de gérer les employés, les règlements et tout ça. Et une partie du carrefour du Grand Havre était dédiée pour la garderie le Petit Voilier. Donc, ça, c'est deux choses qui ont commencé dès le début et qui continuent maintenant. Même que ça a pris de l'expansion à d'autres endroits physiques de la municipalité.
La communauté s'est structurée depuis toutes ces années et Jean-Guy est fier de voir l'évolution et la multiplication des services offerts, même s'il regrette les difficultés rencontrées pour trouver une relève chez les bénévoles dans le milieu associatif.
Je pense qu'il y a un certain essoufflement. Il y a encore... Du point de vue à recruter de nouveaux bénévoles, c'est moins évident que lorsqu'on travaille de longue haleine pour obtenir le centre scolaire communautaire. L'énergie vive qu'il y avait lorsque la réussite, le projet s'est concrétisé, ça a donné une grosse charge de départ pour implanter... disons, la partie communautaire du projet. Maintenant, c'est plus difficile. Je pense qu'il y a plus de dépendance sur, disons, les employés et moins sur le bénévolat.
Jean-Guy regarde les années passées avec fierté. L'implication et l'obstination de tous ces bénévoles ont été décisifs pour faire de cette communauté fière et déterminée ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il tient à lui souhaiter un joyeux anniversaire et espère l'avoir célébré encore de nombreux événements.
Bien, j'aimerais de souhaiter un bon anniversaire au CCGH. C'est très valorisant de voir qu'on est encore là. Il y avait une expression lorsque les Acadiens ont fêté leur 375e anniversaire d'être en Acadie. L'expression, c'était « on est encore debout ». Et c'est beau de voir que le CCGH est encore debout et puis qu'il va continuer à évoluer à sa manière.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada et qui travaillent en français et en anglais. Rendez-vous sur canada-info.ca et je dois souligner, depuis peu, on a aussi une journaliste latino-américaine qui travaille évidemment en espagnol. On ne vous présente à cette émission qu'une infime partie de ce qui est produit chaque semaine. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'information locale. Trouvez-nous aussi sur Twitter, Canada LJI, et écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, de même que sur notre site Internet. On remercie nos journalistes cette semaine, Daniel Aucoin, Sébastien Beltran, Élisabeth Séguin et Vincent Savard, de même que leurs invités. Et aussi, merci à notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Hung around with big shots, never knew love was in the sights. I guess I missed the target, caught up in a different line of fire. But I know since I've been aiming for the sweetness in your soul, your name is on the bullet and it's getting ready to explode. There's been a change inside my life,
and I just wanna let you know.